franceinter.fr.
13h30 sur France Inter, la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servageant.
Quel est le sujet du jour?
Le papier avec Eric Orsenna qui rêve de faire comme Cameron Evec, qui va peut-être l'imiter en Capitaine Nemo, 20 000 lieues sous les mers, mais ce sera un prochain livre qui suit le papier qui vient de paraître.
Bonjour chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le papier.
Oh, nous sommes dans une des plus grandes bibliothèques de toute la chrétienté. Le Beatus de Libane. Ceci est une pure merveille. C'est la version commentée par Umbertus de Bologne. Combien d'autres salles? Combien d'autres livres?
Le livre papier, c'était un miracle, toujours renouvelé. Aujourd'hui, il est comme nimbé d'une certaine tristesse, d'une lumière d'ombre. On s'interroge dans le grand combat qui s'engage avec le livre numérique. Que va-t-il perdre? En réalité, dans l'histoire, le mariage entre le papier et l'écrit, indissoluble pendant des siècles, a commencé à se dénouer bien avant que le livre numérique ne pointe le nez. Dès aujourd'hui, plus de la moitié de la production mondiale de papier est constituée par des papiers d'hygiène et d'emballage, et ce sont ces papiers qui entraînent l'essentiel de la croissance, soit 3% par an. Et la recherche ne les abandonne pas sous prétexte qu'ils seraient devenus des objets triviaux. Un exemple, tout récent, on vient d'inventer à Grenoble un papier peint qui filtre 99% des ondes électromagnétiques, avis aux électrosensibles. Et empêche-t-il ce papier peint d'écouter la radio? Pas du tout. Le papier est toujours aussi intelligent.
Ça dépend quelle radio.
Eric Orsenna, merci du compliment.
Est-ce qu'il y a un filtre de qualité? Sans doute.
Vous publiez une série de petits précis de mondialisation. On fait un peu la même chose à notre modeste échelle à la marge de l'histoire sur France Inter. On parle de l'or, on parle de la pomme de terre. Vous avez
même
parlé.
Même combat, c'est la curiosité.
De l'eau, vous avez parlé du coton, et maintenant, vous voyagez sur la route de la soie, donc c'est chez Stock. C'est un combat de suivre la route de la soie. Il faut gagner des villes, des villages, des usines. Gagner.
Alors, ce qui est intéressant, j'ai commencé la route de la soie presque à l'envers, parce que quand on parle de la route de la soie, on parle de la Chine qui irait jusqu'à Venise, en passant par Constantinople, Byzance. Et moi, je suis parti par l'extrême nord-ouest de la Chine. Une ville s'appelle Urumqi, où dans le temps, il y avait une majorité de Ouïghours, c'est-à-dire des musulmans de cette partie-là. Et puis, je suis remonté vers l'est, c'est-à-dire vers Pékin. Et alors, on est en plein désert. Et alors, chacune des villes est une oasis, comme des pierres en pierre d'un guet. Et donc, on avance comme ça sur une route entrecoupée de longs déserts et donc de solitude.
Tout commence en Chine, la légende dit, vers 120 de notre ère. On va adopter pour notre première illustration sonore un ton qui n'est pas celui de votre collection précise de mondialisation, mais un ton du genre l'histoire racontée aux enfants.
Sous la dynastie des Han, Tsai Lung, à la demande de l'impératrice, commença à imaginer un support d'écriture plus léger que les tablettes de bambou et moins cher que la soie. On raconte que Tsai Lung consacrait tout son temps libre à la recherche d'un matériau nouveau. Il parcourait la campagne, cherchant sans relâche des plantes susceptibles d'être converties en papier. Un jour, il remarqua le travail des guêpes, qui, de l'écorce de certains arbres, fabriquaient une espèce de papier. Est-ce ce jour-là qu'il imagina de faire du papier à partir de l'écorce du mûrier?
Ne décevez pas cet enfant. Enfin, la vérité consiste quand même à dire que c'est avant Tsai Lung.
Oui, en fait, Tsai Lung, c'est donc le milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ. Et on commence à trouver des papiers bien antérieurs, puisqu'on trouve des papiers deux siècles avant Jésus-Christ. Donc il est probable que le papier ait été inventé peut-être trois, peut-être quatre siècles avant Jésus-Christ, un peu partout en Chine. Et on retrouve les plus vieux exemplaires de ces papiers à l'extrême nord de la Chine, c'est-à-dire là où c'est le plus sec, c'est-à-dire dans ces pays d'invraisemblance. semblable désert. Mais ce que dit cette petite fille est formidable, parce que le papier n'est pas seulement le support de nos histoires, c'est lui-même un personnage incroyable. Donc on peut dire monsieur ou madame papier, j'en sais rien, et donc on raconte l'histoire du papier. C'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire de faire de ce papier le personnage d'une sorte de roman.
Le papier sert à parler, nous autres vivants, sur la terre, au ciel des morts, en Chine.
Aussi, mais ça existe encore aujourd'hui. J'habite tout près du quartier chinois, dans le 13e, et il y a des monnaies en papier, il y a des sortes de chasubles de vêtements en papier, il y a des maisons en papier, et on les brûle pour entrer en contact avec les disparus, qui comme ça ont de la monnaie à eux pour leurs menus achats, ils ont des nouveaux vêtements, et ils ont des maisons. Et à chaque fois qu'on a eu un bénéfice, on a intérêt à acheter une maison en papier importante pour qu'en la brûlant, son ancêtre puisse s'installer plus confortablement dans l'au-delà. Je trouve ça magnifique et ça existe encore aujourd'hui, avenue d'Ivry, dans le 13e arrondissement.
Sur la route de la soie que vous avez pratiquée aujourd'hui, on consignait aussi les bénéfices sur le papier. C'était une de ses fonctions, ce qui a intéressé les Arabes, qui sont les truchements qui ont permis à l'invention du papier de passer plus à l'ouest.
C'est ça qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, c'est-à-dire jusqu'au milieu du 8e siècle, jusque vers 750, le papier, il n'est qu'asiatique. Principalement chinois, mais aussi coréen, et un peu après, il deviendra japonais. Mais c'est tout, le reste du monde ne connaît pas le papier. Il écrit sur des parchemins, c'est-à-dire des peaux d'animaux, ou sur des papyrus. Et puis, les Arabes remportent la victoire près de Samarcande, et à ce moment-là, ils découvrent des artisans formidables qui sont des Chinois, et ils voient cette matière inouïe, simple à fabriquer, et qui donne des surfaces extrêmement lisses, sur lesquelles on peut tout consigner. Et ils ont besoin de ça, parce que c'est des administrateurs d'un empire immense. Et en même temps, quelle meilleure surface pour recueillir la parole de Dieu. Donc sur ce papier, on va calligraphier sans fin le Coran.
Alors le Coran, on l'imprimera seulement au 19e siècle dans le monde arabe. Sur le papier, lecture horizontale, alors que le parchemin, c'est le papyrus, pardon, c'est de la lecture cylindrique. Sur le papier, on va aussi consigner toutes sortes de savoirs, et pas seulement le savoir religieux.
Alors, ce qui est formidable, c'est que il y avait un appétit énorme de savoir chez les Arabes de ce temps-là, et principalement au Moyen-Orient, avec Bagdad, qui était un des lieux de concentration de la pensée. On sait que l'algèbre a été inventée dans l'Ouzbékistan actuel, dans ces villes formidables. Quand on suit la route de la soie, cette fois-ci vers l'ouest, quand on est à Samarcande, à Bukhara, à Riva, c'est des endroits sublimes, et en même temps où la pensée était là. Et ils trouvaient le support idéal pour consigner leur savoir, et l'appétit de savoir a été accru par justement ce compagnon de tous ces secrets, de toutes ces découvertes.
Le compagnon horizontal. Alors l'Occident chrétien va être touché à son tour via Tunis et l'Italie et via l'Espagne et Fès. Et au XIIIe siècle, plutôt que de continuer à acheter des papiers arabes, l'idée vient de les fabriquer en Europe, en Italie d'abord, et ensuite à partir du XIVe, XVe, dans des moulins au bord de l'eau. La matière première du papier à l'époque, c'est l'eau, ainsi de ce moulin que vous avez visité sur votre route des papiers, Eric Orseda, dans une région que vous connaissez bien.
Dès le 16e, des bateaux ont remonté la Charente pour charger du papier charentais, un papier reconnu pour ses qualités. Il y avait autour d'Angoulême une vingtaine de moulins à papier. Il n'en reste aujourd'hui plus qu'un, le moulin du Verger, où l'on produit et fabrique du papier de façon artisanale.
Pour fabriquer la pâte, il faut à peu près 2h30. Pour transformer ces 50 kg de pâte que l'on fabrique en 50 kg de papier, il faut entre une semaine et trois semaines. Et après, le pressage, le séchage, pour à peu près un mois. Quoi.
Alors, ce sont des moulins qui avaient cette fonction de broyer les fibres, de broyer les fibres de textile. Dans un premier temps, le papier est fait principalement des textiles. Donc, ces moulins, on les appelait moulins parce qu'une autre partie de l'année, bien souvent, en tout cas pendant la première période, ils ont broyé les grains pour faire de la farine. D'où l'expression magnifique, on disait qu'il y avait la farine que l'on connaît, dont on fait le pain, Et puis il y a la farine de l'esprit, c'était le papier sur lequel on écrivait. Donc ces moulins existent encore, il y en a quelques-uns. Partout où il y a des cours d'eau, il y avait des moulins, parce que c'est la matière première du papier. Et alors j'ai des lecteurs déjà qui m'ont engueulé, parce qu'ils ont dit, vous ne faites pas, dont Michel Charras, vous ne faites pas la part assez belle à la région d'Ambert, dans Auvergne, parce que là aussi on avait des moulins. Et donc quand vous faites un tour du monde, il y a toujours quelqu'un qui dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de moi? Donc Michel Charras est furieux. Donc,
mais vous parlez quand même d'Annonay, et Éric de Montgolfier doit être content. Je cite la famille Montgolfier parce que souvent à cette époque-là, 17e, 18e siècle, on est arrivé à ce qu'on appelle les temps modernes, la fabrication est familiale et pas seulement en France.
Elle est familiale parce que les nobles tiennent les rivières, parce que c'est évidemment la richesse. Ils tiennent donc l'énergie. Et ce qui est formidable avec Annonay, c'est que donc, la famille Montgolfier est d'abord dans le papier, mais il y a une fratrie très très nombreuse. Ils sont 16 et il y en a 2-3 qui sont fous d'invention. Et notamment de fabriquer les montgolfières. Et les montgolfières, le premier vol habité est quand même constitué d'une enveloppe mixte où vous avez une partie de papier et une partie de coton. Donc ça, c'est des choses vraies qui me réjouissent. Pourquoi je fais ce genre de livre? C'est que la vérité donne... Moi, je suis fou d'histoire, mais la vérité donne des histoires au moins aussi belles que les histoires inventées.
Coton, papier, le papier à l'époque de l'aérostation débutante est d'origine textile. C'est à partir du milieu du 19e siècle que, de production rare, elle va devenir une production à croissance exponentielle avec l'utilisation massive du bois.
Mais oui, parce qu'on était bloqué, on avait besoin de plus en plus de papier. Au Moyen-Âge, les moines, au fond, avaient assez de papier pour calligraphie, mais après, on demande sans arrêt du papier avec l'invention de l'imprimerie. Donc le textile ne suffit pas. C'est pour ça que les chiffonniers se battent pour avoir suffisamment de matières premières. Et puis, brutalement, on se dit, mais pourquoi on ne ferait pas avec le bois, puisque dans les bois, évidemment, il y a des fibres.
Alors la production va croître très vite. Et en amont, il faudra de vastes forêts exploitées industriellement en France, dans les Landes, au nord de l'Europe, où vous êtes allé, les forêts scandinaves, et dans le Nouveau Monde.
Ça commence au fond du lac brûlé, alentour du 8 ou 10 de mai. Dans sa tête, il y a des billots qui flottent, qu'il échangerait pour un air de guitare. Des billots pour le papier, des billots pour le carton, des billots pour se chauffer, des billots pour les maisons. Pas de billots, pas d'écrivain, pas de livre comme de raison. Ce serait peut-être aussi bien, mais peut-être aussi que non. Debout sur les rivières, 80 tonnes à guider. Arriver au moulin de Bergougnam, il faut débloquer la diam qui se bloque un peu plus loin. Coup de hache et coup de pied, dynamite et chaîne cassée. Sur le front, la pluie glacée, pas de nouvelles de la fiancée. Les heures sont longues, les eaux profondes, dans d'autres mondes, les femmes blondes. La gaffe, le galandard, les rapides et les gros bars. Si l'on veut être là à temps, en même temps que le printemps, il y aura de la musique à plein, des voisins et puis du vin, et de la bière et des matins, installés dans le jardin. Da-da-da-dum, 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 da-da-da-dum,
da-da-da-dum. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Le papier aujourd'hui avec Éric Orsenna, écrivain, académicien, historien, géographe. Il voudrait avoir toutes ses fonctions, il ne les a pas encore. Tout à fait, votre livre vient de paraître chez Stock et fait une grande place à Félix Leclerc. Et derrière Félix Leclerc, à tous les métiers qui permettent la fabrication du papier de bois.
Alors, imaginez ces métiers de draveurs. Ça, c'était une spécialité du Canada. Donc, ces bûcherons coupaient pendant l'hiver, faisaient glisser les troncs vers les rivières. Et quand les rivières se dégelaient, il y avait des sortes d'énormes radeaux naturels qui allaient vers le Saint-Laurent. Et donc, il fallait les guider, ces radeaux. Donc, il fallait marcher sur ces radeaux. Imaginez, d'abord, c'était à demi-gelé, donc glissant. Et puis, les troncs tournaient sur eux-mêmes, donc... des déséquilibres, des gens qui plongeaient, qui étaient écrasés, qui étaient noyés. Et à un moment donné, ce mikado géant se bloquait. Donc, il fallait y aller à la dynamique, ce qu'on appelait ça l'embâcle. Et donc, il fallait tout faire exploser. Et donc, il fallait fuir aussi la dynamique. Et ces gens-là, c'est les draveurs. Et sans eux, il n'y aurait pas eu de papier. Et sans papier, il n'y aurait pas eu d'écrivain. Et à un moment donné, il dit « pas de bio ». Pas d'écrivain, pas de bio, pas d'écrivain. Donc, mais j'aime tellement, d'abord j'aime beaucoup le Québec, mais remonter, si vous avez l'occasion d'aller à cet endroit incroyable, Trois-Rivières, en fait il n'y en a qu'une, mais il y avait des îles, donc les navigateurs s'étaient trompés, et on remonte jusqu'à la Tuque, et la Tuque c'est en fait le nom pour le chapeau des bûcherons, et c'est le village natal du grand Félix. Donc ces voyages-là permettent aussi de saluer les métiers, et puis les personnages comme Félix Leclerc.
Parmi les métiers virtuels d'Éric Orsenna, éditeur de guides, j'indique.
Ah, moi je guide, oui.
Que vous voudriez publier une collection qui s'intitulerait Les Guides Orsenna. Pas de débâcle, pas d'embâcle, pas d'écrivain. Sauf que si pendant 3 siècles l'industrie du papier avait été commandée par la demande de l'imprimerie, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous dites, il y a le papier graphique, il y a le papier tisseuse, oui. Et il y a le papier d'emballage. Le papier graphique. Qui sert notamment à l'impression des livres et des journaux, c'est moins de la moitié de la production
c'est
mondiale.
C'est moins de la moitié. Quand on parle de papier, qui est notre compagnon de tous les jours, d'écriture, de lecture, c'est moins de la moitié. Mais l'emballage est absolument clé.
Vous ne voulez pas d'illustration sonore sur les produits d'hygiène, les papiers d'hygiène?
Si, je peux.
On n'en a pas vraiment.
Mais oui, non, mais
qu'est-ce
moi,
qu'on aurait pu
non,
mettre
non, je crois qu'il y a une bande qu'on a prise à Grenoble quand je testais dans le laboratoire de Grenoble la douceur du PQ.
D'accord.
Parce que je me dois à mon public, à la vérification des choses. Et alors, les ingénieurs ont réussi ce miracle d'objectiver la douceur. Et donc, mon fondement s'en est trouvé très heureux.
Mais l'emballage...
Je vous dis tout. Hein, on est
l'emballage,
dans l'activité, on est
choisissons plutôt cela, Éric Orsenna. Comment illustrer? Alors, dans ce secteur-là, le passage du familial au mondial est fondamental. Saviez-vous, on va peut-être vous apprendre quelque chose, que la famille Brel... faisait dans l'emballage.